Le cousin Ponce, sixième partie. Dans la rue, en marchant, La Cibot fit ce que font les consultants avec les consultations de toute espèce. Elle crut à ce que la prophétie offrait de favorable à ses intérêts et douta des malheurs annoncés. Le lendemain, affermie dans ses résolutions, elle pensait à tout mettre en œuvre pour devenir riche en se faisant donner une partie du musée Ponce. Aussi n'eut-elle plus, pendant quelque temps, d'autres pensées que celles de combiner les moyens de réussir. Le phénomène expliqué ci-dessus, celui de la concentration des forces morales chez tous les gens grossiers, qui, n'usant pas leurs facultés intelligentielles ainsi que les gens du monde par une dépense journalière, les trouve fortes et puissantes au moment où joue dans leur esprit cette arme redoutable appelée l'idée fixe. Se manifesta chez La Cibot à un degré supérieur. De même que l'idée fixe produit les miracles des évasions et les miracles du sentiment, cette portière, appuyée par la cupidité, devint aussi forte qu'un usingen aux abois, aussi spirituel sous sa bêtise que le séduisant la palférine. Quelques jours après, sur les 7 heures du matin, en voyant Raymond Nanque occupé d'ouvrir sa boutique, elle alla chattement à lui. Comment faire pour savoir la vérité sur la valeur des choses entassées chez mes messieurs? Demanda-t-elle. Ah, c'est bien facile, répondit le marchand de curiosité dans son affreux charabia qu'il est inutile de continuer à figurer pour la clarté du récit. Si vous voulez jouer franc-jeu avec moi, je vous indiquerai un appréciateur, un bien honnête homme, qui saura la valeur des tableaux à 2 sous près. Qui? Monsieur Magus, un juif qui ne fait plus d'affaires que pour son plaisir. Élie Magus, dont le nom est trop connu dans la comédie humaine pour qu'il soit nécessaire de parler de lui, s'était retiré du commerce des tableaux et des curiosités, en imitant, comme marchand, la conduite que Ponce avait tenue comme amateur. Les célèbres appréciateurs, feu Henri, messieurs Pigeot et Moret, Théré, Georges et Rohan, enfin les experts du musée, étaient tous les enfants, comparés à Élie Magus, qui devinait un chef-d'œuvre sous une crasse centenaire, qui connaissait toutes les écoles et l'écriture de tous les peintres. Ce juif, venu de Bordeaux à Paris, avait quitté le commerce en 1835, sans quitter les dehors misérables qu'il gardait, selon les habitudes de la plupart des Juifs, tant cette race est fidèle à ses traditions. Au Moyen-Âge, la persécution obligeait les Juifs à porter des haillons pour déjouer les soupçons, à toujours se plaindre, pleurnicher, crier à la misère. Ces nécessités d'autrefois sont devenues, comme toujours, un instinct de peuple, un vice endémique. Élie Magus, à force d'acheter des diamants et de les revendre, de brocanter les tableaux et les dentelles, les hautes curiosités et les émaux, les fines sculptures et les vieilles orfèvreries, jouissait d'une immense fortune inconnue, acquise dans ce commerce, devenue si considérable. En effet, le nombre des marchands a décuplé depuis 20 ans à Paris, la ville où toutes les curiosités du monde se donnent rendez-vous. Quant aux tableaux, ils ne se vendent que dans 3 villes, à Rome, à Londres et à Paris. Élie Magus vivait, chaussée des Minimes, petite et vaste rue qui mène à la place royale, où il possédait un vieil hôtel acheté, pour un morceau de pain comme on dit, en 1831. Cette magnifique construction contenait un des plus fastueux appartements décorés du temps de Louis XV, car c'était l'ancien hôtel de Maulincourt. Bâti par ce célèbre président de la cour des aides, cet hôtel, à cause de sa situation, n'avait pas été dévasté durant la Révolution. si le vieux juif s'était décidé, contre les lois israélites, à devenir propriétaire, croyez qu'il eût bien ses raisons. Le vieillard finissait, comme nous finissons tous, par une manie poussée jusqu'à la folie. Quoiqu'il fût avare autant que son ami feu Gobseck, il se laissa prendre par l'admiration des chefs-d'œuvre qu'il brocantait. Mais son goût, de plus en plus épuré, difficile, était devenu l'une de ces passions qui ne sont permises qu'aux rois quand ils sont riches et qu'ils aiment les arts. Semblable au second roi de Prusse, qui ne s'enthousiasmait pour un grenadier que lorsque le sujet atteignait à 6 pieds de hauteur, et qui dépensait des sommes folles pour le pouvoir joindre à son musée vivant de grenadier, le brocanteur retiré ne se passionnait que pour des toiles irréprochables, restées telles que le maître les avait peintes, et du premier ordre dans l'œuvre. Aussi, Élie Magus ne manquait-il pas une seule des grandes ventes, visitait-il tous les marchés et voyageait-il par toute l'Europe. Cette âme vouée au lucre, froide comme un glaçon, s'échauffait à la vue d'un chef-d'œuvre, absolument comme un libertin, lassé de femme, s'émeut devant une fille parfaite et s'adonne à la recherche des beautés sans défaut. Ce don juan d'étoiles, cet adorateur de l'idéal, trouvait dans cette admiration des jouissances supérieures à celles que donne à l'avare la contemplation de l'or. Il vivait dans un sérail de beaux tableaux. Ces chefs-d'œuvre, logés comme doivent l'être les enfants des princes, occupaient tout le premier étage de l'hôtel qu'Élie Magus avait fait restaurer. Et avec quelle splendeur! Aux fenêtres pendaient en rideaux les plus beaux brocarts d'or de Venise. Sur les parquets s'étendaient les plus magnifiques tapis de la savonnerie. Les tableaux, au nombre de 100 environ, étaient encadrés dans les cadres les plus splendides, redorés tous avec esprit par le seul doreur de Paris qu'Élie trouva consciencieux, par Servet, à qui le vieux juif apprit à dorer avec l'or anglais, or infiniment supérieur à celui des batteurs d'or français. Servet est, dans l'art du doreur, ce qu'était tout venin dans la reliure, un artiste amoureux de ses œuvres. Les fenêtres de cet appartement étaient protégées par des volets garnis en tôle. Élie Magus habitait 2 chambres en mansarde au 2e étage, meublées pauvrement, garnies de ses haillons et sentant la juiverie, car il achevait de vivre comme il avait vécu. Le rez-de-chaussée, tout entier pris par les tableaux que le juif brocantait toujours, par les caisses venues de l'étranger, contenait un immense atelier où travaillait presque uniquement pour lui Moret, le plus habile de nos restaurateurs de tableaux, un de ceux que le musée devrait employer. Là se trouvait aussi l'appartement de sa fille, le fruit de sa vieillesse. Une juive, belle comme sont toutes les juives, quand le type asiatique reparaît pur et noble en elle. Noémie, gardée par 2 servantes fanatiques et juives, avait pour avant-garde un juif polonais nommé Abranko, compromis par un hasard fabuleux dans les événements de Pologne, et qu'Élie Magus avait sauvé par spéculation. Abranko, concierge de cet hôtel muet, morne et désert, occupait une loge armée de 3 chiens d'une férocité remarquable. L'un de Terre-Neuve, l'autre des Pyrénées, le 3e anglais et bouledogue. Voici sur quelles observations profondes était assise la sûreté du juif qui voyageait sans crainte, qui dormait sur ses 2 oreilles et ne redoutait aucune entreprise, ni sur sa fille, son premier trésor, ni sur ses tableaux, ni sur son or. Abranko recevait chaque année 200 francs de plus que l'année précédente et ne devait plus rien recevoir à la mort de Magus, qui le dressait à faire l'usure dans le quartier. Abranko n'ouvrait jamais à personne sans avoir regardé par un guichet grillagé. Formidable. Ce concierge, d'une force herculéenne, adorait Magus, comme Sancho Panza adore Don Quichotte. Les chiens, renfermé pendant le jour, ne pouvait avoir sous la dent aucune nourriture. Mais à la nuit, Abranco les lâchait, et ils étaient condamnés par le rusé calcul du vieux juif à stationner, l'un dans le jardin, au pied d'un poteau en haut duquel était accroché un morceau de viande, l'autre dans la cour, au pied d'un poteau semblable, et le troisième dans la grande salle du rez-de-chaussée. Vous comprenez que ces chiens, qui par instinct gardaient déjà la maison, étaient gardés eux-mêmes par leur faim. Ils n'eussent pas quitté, pour la plus belle chienne, leur place au pied de leur mât de cocagne. Ils ne s'en écartaient pas pour aller faire quoi que ce soit. Qu'un inconnu se présentât, les chiens s'imaginaient tous trois que le quidam en voulait à leur nourriture, laquelle ne leur était descendue que le matin, au réveil d'Abranco. Cette infernale combinaison avait un avantage immense. Les chiens n'aboyaient jamais. Le génie de Magus les avait promus sauvages. Ils étaient devenus sournois comme des Mohicans. Or, voici ce qui advint. Un jour, des malfaiteurs, enhardis par ce silence, crurent assez légèrement pouvoir rincer la caisse de ce juif. L'un d'eux, désigné pour monter le premier à l'assaut, passa par-dessus le mur du jardin et voulut descendre. Le bouledogue l'avait laissé faire, il l'avait parfaitement entendu. Mais, dès que le pied de ce monsieur fut à portée de sa gueule, il le lui coupa net et le mangea. Le voleur eut le courage de repasser le mur. Il marcha sur l'os de sa jambe jusqu'à ce qu'il tomba évanoui dans les bras de ses camarades qui l'emportèrent. Ce fait parit, car la Gazette des Tribunaux ne manqua pas de rapporter ce délicieux épisode des nuits parisiennes, fut pris pour un puf. Magus, alors âgé de 75 ans, pouvait aller jusqu'à la centaine. Riche, il vivait comme vivaient les Rémonenques. 3 000 francs, y compris ses profusions pour sa fille, défrayaient toutes ses dépenses. Aucune existence n'était plus régulière que celle du vieillard. Levé dès le jour, il mangeait du pain frotté d'ail, déjeuner qui le menait jusqu'à l'heure du dîner. Le dîner, d'une frugalité monacale, se faisait en famille. Entre son lever et l'heure de midi, le maniaque usait le temps à se promener dans l'appartement où brillaient les chefs-d'œuvre. Il y époussetait tout, meubles et tableaux. Il admirait sans lassitude. Puis il descendait chez sa fille, il s'y grisait du bonheur des pères, et il partait pour ses courses à travers Paris, où il surveillait les ventes, allait aux expositions, etc. Quand un chef-d'œuvre se trouvait dans les conditions où il le voulait, la vie de cet homme s'animait. Il avait un coup à monter, une affaire à mener, une bataille de marengo à gagner. Il entassait ruse sur ruse pour avoir sa nouvelle sultane à bon marché. Magus possédait sa carte d'Europe, une carte où les chefs-d'œuvre étaient marqués, et il chargeait ses coreligionnaires dans chaque endroit d'espionner l'affaire pour son compte, moyennant une prime. Mais aussi, quelle récompense pour tant de soins! Les deux tableaux de Raphaël, perdus et cherchés avec tant de persistance par les raphaéliaques, Magus les possède. Il possède l'original de la maîtresse du Giorgione, cette femme pour laquelle ce peintre est mort. Et les prétendus originaux sont des copies de cette toile illustre qui vaut 500 000 francs, à l'estimation de Magus. Ce juif garde le chef-d'œuvre de Titien, le Christ mis au tombeau, tableau peint pour Charles Quint, qui fut envoyé par le grand homme au grand empereur, accompagné d'une lettre écrite tout entière de la main du Titien, et cette lettre est collée au bas de la toile. Il a du même peintre l'original, la maquette d'après laquelle tous les portraits de Philippe II ont été faits. Les 97 autres tableaux sont tous de cette force et de cette distinction. Aussi Magus se rit-il de notre musée, ravagé par le soleil qui ronge les plus belles toiles en passant par des vitres dont l'action équivaut à celle des lentilles. Les galeries de tableaux ne sont possibles qu'éclairées par leurs plafonds. Magus fermait et ouvrait les volets de son musée lui-même. Déployer autant de soins et de précautions pour ses tableaux que pour sa fille, son autre idole. Ah, le vieux tableau-mane connaissait bien les lois de la peinture. Selon lui, les chefs-d'œuvre avaient une vie qui leur était propre. Ils étaient journaliers. Leur beauté dépendait de la lumière qui venait les colorer. Il en parlait comme les Hollandais parlaient jadis de leurs tulipes. Et venez voir tel tableau à l'heure où le chef-d'œuvre resplendissait dans toute sa gloire, quand le temps était clair et pur. C'était un tableau vivant au milieu de ces tableaux immobiles que ce petit vieillard, vêtu d'une méchante petite redingote, d'un gilet de soie décennale, d'un pantalon crasseux, la tête chauve, le visage creux, la barbe frétillante et dardant ses poils blancs, le menton menaçant et pointu, la bouche démeublée, l'œil brillant comme celui de ses chiens, les mains osseuses et décharnées, le nez en obélisque, la peau rugueuse et froide, souriant à ces belles créations du génie. Un juif, au milieu de 3 millions, sera toujours un des plus beaux spectacles que puisse donner l'humanité. Robert Médal, notre grand acteur, ne peut pas, quelque sublime qu'il soit, atteindre à cette poésie. Paris est la ville du monde qui recèle le plus d'originaux en ce genre, ayant une religion au cœur. Les excentriques de Londres finissent toujours par se dégoûter de leurs adorations comme ils se dégoûtent de vivre. Tandis qu'à Paris, les monomanes vivent avec leur fantaisie dans un heureux concubinage d'esprit. Vous y voyez souvent venir à vous des ponces, des élimagus, vêtus fort pauvrement, le nez comme celui du secrétaire perpétuel de l'Académie française, à l'ouest, ayant l'air de ne tenir à rien, de ne rien sentir, ne faisant aucune attention aux femmes, aux magasins, allant pour ainsi dire au hasard, le vide dans leurs poches, paraissant être dénués de cervelle. Et vous vous demandez à quelle tribu parisienne ils peuvent appartenir. Eh bien, ces hommes sont des millionnaires, des collectionneurs, les gens les plus passionnés de la terre, des gens capables de s'avancer dans les terrains boueux de la police correctionnelle pour s'emparer d'une tasse, d'un tableau, d'une pièce rare, comme fit Elie Magus un jour en Allemagne. Tel était l'expert chez qui Remonenck conduisit mystérieusement la Cibot. Remonenck consultait Elie Magus toutes les fois qu'il le rencontrait sur les boulevards. Le juif avait, à diverses reprises, fait prêter par Abranco de l'argent à cet ancien commissionnaire dont la probité lui était connue. La chaussée des Minimes étant à 2 pas de la rue de Normandie, les deux complices du coup à monter y furent en 10 minutes. « Vous allez voir, lui dit Remonenck, le plus riche des anciens marchands de la curiosité, le plus grand connaisseur qu'il y ait à Paris. » Madame Cibot fut stupéfaite en se trouvant en présence d'un petit vieillard vêtu d'une houppelande indigne de passer par les mains de Cibot pour être raccommodé, qui surveillait son restaurateur, un peintre occupé à réparer des tableaux dans une pièce froide de ce vaste rez-de-chaussée. Puis, en recevant un regard de ses yeux pleins d'une malice froide comme ceux des chats, elle trembla. « Que voulez-vous, Remonenck ? » dit-il. « Il s'agit d'estimer des tableaux, et il n'y a que vous dans Paris qui puissiez dire à un pauvre chaudronnier comme moi ce qu'il peut donner, quand il n'a pas, comme vous, des 1000 et des 100. « Où est-ce ? » dit Elie Magus. « Voici la portière de la maison qui fait le ménage du monsieur et avec qui je me suis arrangé. Quel est le nom du propriétaire ? » « Monsieur Ponce, » dit la Cibot. « Je ne le connais pas, » répondit d'un air ingénu Magus en pressant tout doucement de son pied le pied de son restaurateur. Moret, ce peintre, savait la valeur du musée Ponce et il avait levé brusquement la tête. Cette finesse ne pouvait être hasardée qu'avec Remonenck et la Cibot. Le juif avait évalué moralement cette portière par un regard où les yeux firent l'office des balances d'un peseur d'or. L'un et l'autre devaient ignorer que le bonhomme Ponce et Magus avaient mesuré souvent leurs griffes. En effet, ces deux amateurs féroces s'enviaient l'un l'autre. Aussi le vieux juif venait-il d'avoir comme un éblouissement intérieur. Jamais il n'espérait pouvoir entrer dans un sérail si bien gardé. Le musée Ponce était le seul à Paris qui pût rivaliser avec le musée Magus. Le juif avait eu, 20 ans plus tard que Ponce, la même idée. Mais, en sa qualité de marchand amateur, le musée Ponce lui resta fermé, de même qu'à du Sommerard. Ponce et Magus avaient au cœur la même jalousie. Ni l'un ni l'autre, ils n'aimaient cette célébrité que recherchent ordinairement ceux qui possèdent des cabinets. Pouvoir examiner la magnifique collection du pauvre musicien, c'était, pour Élie Magus, le même bonheur que celui d'un amateur de femmes parvenant à se glisser dans le boudoir d'une belle maîtresse que lui cache un ami. Le grand respect que témoignait Rémoninck à ce bizarre personnage et le prestige qu'exerce tout pouvoir réel, même mystérieux, rendirent la portière obéissante et souple. La Cibot perdit le ton autocratique avec lequel elle se conduisait dans sa loge avec les locataires et ses deux messieurs. Elle accepta les conditions de Magus et promit de l'introduire dans le musée Ponce le jour même. C'était amener l'ennemi dans le cœur de la place, plonger un poignard au cœur de Ponce, qui, depuis 10 ans, interdisait à la Cibot de laisser pénétrer qui que ce fût chez lui, qui prenait toujours sur lui ses clés, et à qui la Cibot avait obéi, tant qu'elle avait partagé les opinions de Schmuck en fait de bric-à-brac. En effet, le bon Schmuck, en traitant ses magnificences de primporion et déplorant la manie de Ponce, avait inculqué son mépris pour ses anticailles à la portière et garantit le musée Ponce de toute invasion pendant fort longtemps. Depuis que Ponce était alité, Schmuck le remplaçait au théâtre et dans les pensionnats. Le pauvre Allemand, qui ne voyait son ami que le matin et à dîner, tâchait de suffire à tout en conservant leur commune clientèle. Mais toutes ses forces étaient absorbées par cette tâche, tant la douleur l'accablait. En voyant ce pauvre homme si triste, les écolières et les gens du théâtre, tous instruits par lui de la maladie de Ponce, lui en demandaient des nouvelles, et le chagrin du pianiste était si grand qu'il obtenait des indifférents la même grimace de sensibilité qu'on accorde à Paris aux plus grandes catastrophes. Le principe même de la vie du bon Allemand était attaqué tout aussi bien que chez Ponce. Schmuck souffrait à la fois de sa douleur et de la maladie de son ami. Aussi parlait-il de Ponce pendant la moitié de la leçon qu'il donnait. Il interrompait si naïvement une démonstration pour se demander à lui-même comment allait son ami que la jeune écolière l'écoutait, expliquant la maladie de Ponce. Entre deux leçons, il accourait rue de Normandie pour voir Ponce pendant un quart d'heure. Effrayé du vide de la caisse sociale, alarmé par Madame Cibot, qui depuis 15 jours grossissait de son mieux les dépenses de la maladie, le professeur de piano sentait ses angoisses dominées par un courage dont il ne se serait jamais cru capable. Il voulait, pour la première fois de sa vie, gagner de l'argent, pour que l'argent ne manquât pas au logis. Quand une écolière, vraiment touchée de la situation des deux amis, demandait à Schmuck comment il pouvait laisser Ponce tout seul, il répondait avec le sublime sourire des dupes « Mademoiselle, nous savons, madame Cibot, un trésor, une perle. Ponce est soigné comme un prince. » Or, dès que Schmuck trottait par les rues, la Cibot était la maîtresse de l'appartement et du malade. Comment Ponce, qui n'avait rien mangé depuis 15 jours, qui gisait sans force, que la Cibot était obligée de lever elle-même et d'asseoir dans une bergère pour faire le lit, Aurait-il pu surveiller ce soi-disant ange gardien? Naturellement, la Cibo était allée chez Elie Magus pendant le déjeuner de Schmuck. Elle revint pour le moment où l'Allemand disait adieu au malade. Car depuis la révélation de la fortune possible de Ponce, la Cibo ne quittait plus son célibataire, elle le couvait. Elle s'enfonçait dans une bonne bergère au pied du lit et faisait à Ponce, pour le distraire, ces commérages auxquels excellent ces sortes de femmes. Devenue pateline, douce, attentive, inquiète, elle s'établissait dans l'esprit du bonhomme Ponce avec une adresse machiavélique, comme on va le voir. Effrayée par la prédiction du grand jeu de Madame Fontaine, la Cibo s'était promis à elle-même de réussir par des moyens doux, par une scélératesse purement morale, à se faire coucher sur le testament de son monsieur. Ignorant pendant 10 ans la valeur du musée Ponce, la Cibo se voyait 10 ans d'attachement, de probité, de désintéressement devant elle, et elle se proposait d'escompter cette magnifique valeur. Depuis le jour où, par un mot plein d'or, Rémonenc avait fait éclore dans le cœur de cette femme un serpent contenu dans sa coquille pendant 25 ans, le désir d'être riche. Cette créature avait nourri le serpent de tous les mauvais levains qui tapissent le fond des cœurs, et l'on va voir comment elle exécutait les conseils que lui sifflait le serpent. « Eh bien, a-t-il bu notre chérubin? Va-t-il mieux ?» dit-elle à Schmuck. « Pas bien, mon cher madame Cipote, pas bien !» répondit l'Allemand en essuyant une larme. « Bah, vous vous alarmez par trop aussi, mon cher monsieur. Il faut en prendre et en laisser. Si beau serait à la mort, je ne serais pas si désolé que vous l'êtes. Allez, notre chérubin est d'une bonne constitution. Et puis, voyez-vous, il paraît qu'il a été sage. Vous ne savez pas combien les gens sages vivent mieux. Il est bien malade, c'est vrai. » Mais avec les soins que j'ai de lui, je l'en tirerai. Soyez tranquille, allez à vos affaires. Je vais lui tenir compagnie et lui faire boire ses pintes d'eau d'orge. J'en fous, je mourrai d'inquiétude, dit Schmuck en pressant dans ses mains, par un geste de confiance, la main de sa bonne ménagère. La Cibo entra dans la chambre de Ponce en s'essuyant les yeux.
Qu'avez-vous, madame Cibo? Dit Ponce.
C'est monsieur Schmuck qui me met l'âme à l'envers. Il vous pleure comme si vous étiez mort, dit-elle.
Quoique vous ne soyez pas bien, vous n'êtes pas encore assez mal pour qu'on vous pleure.
Mais cela me fait tant d'effet. Mon Dieu, suis-je bête d'aimer comme cela les gens et de m'être attachée à vous plus qu'à Cibo? Car après tout, vous ne m'êtes de rien. Nous ne sommes parents que par la première femme. Eh bien, j'ai les sangs tournés dès qu'il s'agit de vous. Ma parole d'honneur, je me ferai couper la main, la gauche, s'entend, na, devant vous, pour vous voir allant et venant, mangeant et flibustant des marchands, comme n'a votre ordinaire. Si j'avais eu un enfant, je pense que je l'aurais aimé comme je vous aime, quoi. Buvez donc, mon mignon, allons, un plein verre. Voulez-vous boire, monsieur? D'abord, monsieur Poulain a dit, s'il ne veut pas aller au Père-Lachaise, monsieur Ponce doit boire dans sa journée autant de voix d'eau qu'un Auvergnat en vend. Ainsi buvez, allons.
Mais je bois, ma bonne Cibo, tant et tant que j'ai l'estomac noyé.
Là, c'est bien, dit la portière en prenant le verre vide. Vous en sauverez comme ça. Monsieur Poulain avait un malade comme vous, qui n'avait aucun soin, que ses enfants abandonnaient, et il est mort de cette maladie-là, faute d'avoir bu. Ainsi faut boire, voyez-vous, mon bichon. Qu'on l'a enterré il y a 2 mois. Savez-vous que si vous mouriez, mon cher monsieur, vous entraîneriez avec vous le bonhomme Schmuck? Il est comme un enfant, ma parole d'honneur. Ah, vous aime-t-il ce cher agneau d'homme? Non, jamais une femme n'aime un homme comme ça. Il en perd le boire et le manger.
Il est maigri depuis 15 jours, autant que vous qui n'avez que la peau et les os. Ça me rend jalouse, car je vous suis bien attachée. Mais je n'en suis pas là. Je n'ai pas perdu l'appétit, au contraire. Forcé de monter et de descendre sans cesse les étages, j'ai des lassitudes dans les jambes, que le soir je tombe comme une masse de plomb. Ne voilà-t-il pas que je néglige mon pauvre Cibot pour vous, que mademoiselle Rémonenque lui fait vivre, qu'il me bougonne parce que tout est mauvais? Pour lors, je lui dis comme ça qu'il faut savoir souffrir pour les autres, et que vous êtes trop malade pour qu'on vous quitte. D'abord, vous n'êtes pas assez bien pour ne pas avoir une garde. Puis, souvent que je souffrirai une garde ici, moi qui fais vos affaires et votre ménage depuis 10 ans. Et elles sont sur leur bouche, qu'elles mangent comme 10, qu'elles veulent du vin, du sucre, leurs chaufferettes, leurs aises. Et puis qu'elles volent les malades, quand les malades ne les mettent pas sur leur testament. Mettez une garde ici pour aujourd'hui, mais demain nous trouverions un tableau, quelque objet de moins. « Oh, madame Cibot !» s'écria Ponce hors de lui. « Ne me quittez pas, qu'on ne touche à rien !»« Je suis là, » dit la Cibot. « Tant que j'en aurai la force, je serai là. Soyez tranquille. Monsieur Poulain, qui peut-être a des vues sur votre trésor, ne voulait-il pas vous donner une garde ? Comme je voulais remoucher. Il n'y a que moi, que je lui ai dit, de qui veuille monsieur. Il a mes habitudes comme j'ai les siennes. » Et il s'est tu. Mais une garde, c'est tout voleuse. J'haïs ces femmes-là. Vous allez voir comme elles sont intrigantes. Pour lors, un vieux monsieur... Notez que c'est monsieur Poulain qui m'a raconté cela. Donc une madame Sabatier, une femme de 36 ans, ancienne marchande de mules au palais. Vous connaissez bien la galerie marchande qu'on a démolie au palais. Ponce fit un signe affirmatif. Ben, cette femme, pour lors, n'a pas réussi, rapport à son homme qui buvait tout et qui est mort d'une imbustion spontanée, mais elle a été belle femme, faut tout dire, mais ça ne lui a pas profité, quoiqu'elle ait eu, dit-on, des avocats pour bons amis. Donc, dans la débine, elle s'a fait garde de femme en couche, et n'a le demeure rubard du bec. Elle n'a donc gardé comme ça d'un vieux monsieur qui, sous votre respect, avait une maladie des foies l'urinaire, qu'on le sondait comme un puits artésien, et qui voulait de si grands soins qu'elle couchait sur un lit de sangle dans la chambre de ce monsieur. C'est incroyable, ces choses-là. Mais vous me direz, les hommes, ça ne respecte rien, tant ils sont égoïstes. Enfin, voilà qu'en causant avec lui, vous comprenez, elle était là toujours. Elle l'égayait, elle lui racontait des histoires, elle le faisait jaser. Comme nous sommes là, pas vrai, tous les deux à jaser. Elle apprend que ses neveux, le malade avait des neveux, étaient des monstres, qu'ils lui donnaient des chagrins, et fin finale, que sa maladie venait de ses neveux. Eh bien, mon cher monsieur, elle a sauvé ce monsieur, et elle est devenue sa femme. Et ils ont un enfant qui est superbe, et que Mme Borderin, la bouchère de la rue Charlot, qui est parente à cette dame, a été marraine. En voilà et de la chance. Moi, je suis mariée, mais je n'ai pas d'enfant, et je puis le dire, c'est la faute à Cibot, qui m'aime trop, car si je voulais... Suffit. Qu'est-ce que nous serions devenus avec de la famille, moi et mon Cibot, qui n'avons pas d'un sou vaillant, n'après 30 ans de probité, mon cher monsieur. Mais ce qui me console, c'est que je n'ai pas un liard du bien d'autrui. Jamais je n'ai fait de tort à personne. Tenez, une supposition, qu'on peut dire, puisque dans 6 semaines, vous serez sur vos quilles, à flâner sur le boulevard. Eh bien, vous me mettriez sur votre testament. Eh bien, je n'aurai de cesse que je n'ai trouvé vos héritiers pour leur rendre. Tant j'ai tant peur du bien qui n'est pas acquis à la sueur de mon front. Vous me direz, « Mais, Mme Cibot, ne vous tourmentez donc pas comme ça. Vous l'avez bien gagné. Vous avez soigné ces messieurs comme vos enfants. Vous leur avez épargné 1000 francs par an. » Car à ma place, savez-vous, monsieur, qu'il y a bien des cuisinières qui auraient déjà 1000 francs à être placées. C'est donc justice si ce digne monsieur vous laisse un petit viager, qu'on me dirait par supposition. Eh bien, non, moi, je suis désintéressée. Je ne sais pas comment il y a des femmes qui font le bien par intérêt. Ce n'est plus faire le bien, n'est-ce pas, monsieur? Je ne vais pas à l'église, moi, je n'en ai pas le temps. Mais ma conscience me dit ce qui est bien. Ne vous agitez pas comme ça, mon chat, ne vous grattez pas. Mon Dieu, comme vous jaunissez. Vous êtes si jaune que vous en devenez brun. Comme c'est drôle qu'on soit en 20 jours comme un citron. La probité, c'est le trésor des pauvres gens. Il faut bien posséder quelque chose. D'abord, vous arriveriez à toute extrémité, par supposition. Je serai la première à vous dire que vous devez donner tout ce qui vous appartient à M. Schmuck. C'est là votre devoir, car il est à lui seul toute votre famille. Il vous aime, celui-là, comme un chien aime son maître. « Ah oui, dit Ponce, je n'ai été aimé dans toute ma vie que par lui. »« Ah, monsieur, dit Madame Cibot, vous n'êtes pas gentil. Et moi, donc, je ne vous aime donc pas ?»«
Je ne dis pas cela, ma chère Madame Cibot. »«
Bon, allez-vous pas me prendre pour une servante, une cuisinière ordinaire, comme si je n'avais pas d'un cœur ?» Ah, mon Dieu, fendez-vous donc pendant 11 ans pour 2 vieux garçons. Ne soyez donc occupés que de leur bien-être, que je remuais tout chez 10 fruitières à m'y faire dire des sottises pour vous trouver du bon fromage de brie, que j'allais jusqu'à la halle pour vous avoir du beurre frais, et prenez donc garde à tout, qu'en 10 ans je ne vous ai rien cassé, rien écorné. Soyez donc comme une mère pour ces enfants, et vous n'entendre dire un « Ma chère Madame Cibot, qui prouve qu'il n'y a pas un sentiment pour vous dans le cœur du vieux monsieur que vous soignez comme un fils de roi, car le petit roi de Rome n'a pas été soigné comme vous. Voulez-vous parier qu'on ne l'a pas soigné comme vous? À preuve qu'il est mort à la fleur de son âge. Tenez, monsieur, vous n'êtes pas juste. Vous êtes un ingrat. C'est parce que je ne suis qu'une pauvre portière. Ah, mon Dieu! Vous croyez donc aussi, vous, que nous sommes des chiens?
« Mais, ma chère Madame Cibot,
enfin, vous qui êtes un savant, expliquez-moi pourquoi nous sommes traités comme ça, nous autres concierges, qu'on ne nous croit pas des sentiments, qu'on se moque de nous. Dans un temps, l'on parle d'égalité. Moi, je ne vaux donc pas une autre femme, moi qui ai été une des plus jolies femmes de Paris, qu'on m'a nommée la belle écaillère et que je recevais des déclarations d'amour 7 ou 8 fois par jour. » Et que si je voulais encore. Tenez, monsieur, vous connaissez bien ce gringalet de ferrailleur qui est à la porte. Eh bien, si j'étais veuve, une supposition, il m'épouserait les yeux fermés, tant il les a ouverts à mon endroit, qu'il me dit toute la journée. Oh, les beaux bras que vous avez, Mame Cibot. Je rêvais cette nuit que c'était du pain et que j'étais du beurre, et que je m'étendais là-dessus. Tenez, monsieur. « En voilà des bras !» Elle retroussa sa manche et montra le plus magnifique bras du monde, aussi blanc et aussi frais que sa main était rouge et flétrie. Un bras potelé, rond, à fossettes, et qui, tiré de son fourreau de mérinos commun, comme une lame est tirée de sa gaine, devait éblouir Ponce, qui n'osa pas le regarder trop longtemps. « Eh ! » reprit-elle. Qui ont ouvert autant de cœurs que mon couteau ouvrait d'huîtres. Eh bien, c'est à Cibot, et j'ai eu le tort de négliger ce pauvre cher homme, qui se jetterait dedans un précipice au premier mot que je dirais, pour vous, monsieur, qui m'appelait « ma chère Madame Cibot », quand je ferais l'impossible pour vous. « Écoutez-moi donc, dit le malade, je ne peux pas vous appeler ma mère, ni ma femme. » « Non, jamais de ma vie ni de mes jours, je ne m'attache plus à personne. »« Mais laissez-moi donc dire, » reprit Ponce. « Voyons, j'ai parlé de Schmuck, d'abord. »« Monsieur Schmuck, en voilà un de cœur, » dit-elle. « Allez, il m'aime, lui, parce qu'il est pauvre. C'est la richesse qui rend insensible, et vous êtes riche. Eh bien, n'ayez une garde, vous verrez quelle vie elle vous fera. » Qu'elle vous tourmentera comme un hanneton. Le médecin dira qu'il faut vous faire boire. Elle ne vous donnera rien qu'à manger. Elle vous enterrera pour vous voler. Vous ne méritez pas d'avoir une madame si beau. Allez, quand Monsieur Poulain viendra, vous lui demanderez une garde. »
Mais sacre bleu, écoutez-moi donc, s'écria le malade en colère. Je ne parlais pas des femmes en parlant de mon ami Schmoke. Je sais bien que je n'ai pas d'autre cœur où je suis aimé sincèrement que le vôtre et celui de Schmoke.
Voulez-vous bien ne pas vous irriter comme ça? S'écria la Cibot en se précipitant sur Ponce et le recouchant de force.
Mais comment ne vous aimerais-je pas? Dit le pauvre Ponce.
Vous m'aimez, là, bien vrai?
Allons, allons, pardon, monsieur, dit-elle en pleurant et essuyant ses pleurs.
Eh bien, oui, vous m'aimez, comme on aime un domestique, voilà. Une domestique à qui l'on jette une viagère de 600 francs, comme un morceau de pain dans la niche d'un chien.
Oh, madame Cibot, s'écria Ponce.
« Pour qui me prenez-vous? Vous ne me connaissez pas. »«
Ah! Vous m'aimeriez encore mieux ?»
reprit-elle en recevant un regard de Ponce. « Vous aimeriez votre bonne grosse Cibot comme une mère? Eh bien, c'est cela. Je suis votre mère. Vous êtes tous deux mes enfants.
Ah! Si je connaissais ceux qui vous ont causé du chagrin, je me ferais mener en cour d'assises et même à la correctionnelle. » car je leur arracherai les yeux. Ces gens-là méritent d'être faits mourir à la barrière Saint-Jacques, et c'est encore trop doux pour de pareils scélérats. Vous, si bon, si tendre, car vous n'avez un cœur d'or, vous étiez créé et mis au monde pour rendre une femme heureuse. Oui, vous l'aureriez rendue heureuse. Ça se voit, vous étiez taillé pour cela. Moi, d'abord, en voyant comment vous êtes avec Monsieur Schmoke, je me disais « Non, Monsieur Ponce a manqué sa vie. Il était fait pour être un bon mari. Allez, vous aimez les femmes. »
« Ah oui, » dit Ponce, « et je n'en ai jamais eu. »«
Vraiment ?»
s'écria la Cibot d'un air provocateur, en se rapprochant de Ponce et lui prenant la main.
« Vous ne savez pas ce que c'est que n'avoir une maîtresse qui fait les 100 coups pour son ami? C'est impossible. Moi, à votre place, je ne voudrais pas m'en aller d'ici dans l'autre monde sans avoir connu le plus grand bonheur qu'il y ait sur terre. Pauvre bichon! Si j'étais ce que j'ai été, parole d'honneur, je quitterais Cibot pour vous. Mais avec un étaillé comme ça, car vous avez un fier nez, comment avez-vous fait, mon pauvre chérubin? Vous me direz, toutes les femmes ne se connaissent pas en hommes, et c'est un malheur qu'elles se marient à tort et à travers, que ça fait pitié. Moi, je vous croyais des maîtresses à la douzaine, des danseuses, des actrices, des duchesses, rapport à vos absences. Quand vous voyant sortir, je disais toujours à Cibot, tiens, voilà Monsieur Ponce qui va courir le Guilledoux. Parole d'honneur, je disais cela, tant je vous croyais aimer des femmes. Le ciel vous a créé pour l'amour. Tenez, mon cher petit monsieur, j'ai vu cela le jour où vous avez dîné ici pour la première fois. Oh, étiez-vous touché du plaisir que vous donniez à Monsieur Schmoke? Et lui qui en pleurait encore le lendemain, en me disant « Madame Cibot, il a dîné ici. » Que j'en ai pleuré comme une bête aussi. Et comme il était triste quand vous avez recommencé vos villes voustes et allé dîner en ville. Pauvre homme, jamais désolation pareille ne s'est vue. Ah, vous avez bien raison de faire de lui votre héritier. Allez, c'est toute une famille pour vous, ce digne, ce cher homme-là. Ne l'oubliez pas. Autrement, Dieu ne vous recevrait pas dans son paradis. Où il doit ne laisser entrer que ceux qui ont été reconnaissants envers leurs amis en leur laissant des rentes. Ponce faisait de vains efforts pour répondre. La Cibot parlait comme le vent marche. Si l'on a trouvé le moyen d'arrêter les machines à vapeur, celui de stopper la langue d'une portière épuisera le génie des inventeurs.
« Je sais ce que vous allez dire, » reprit-elle. « Ça ne tue pas, mon cher monsieur, de faire son testament quand on est malade. Et à votre place, moi, crainte d'accident, je ne voudrais pas abandonner ce pauvre mouton-là, car c'est la bonne bête du bon Dieu. Il ne sait rien de rien. Je ne voudrais pas le mettre à la merci des rapias d'hommes d'affaires et de parents que c'est tous canailles. Voyons, y a-t-il quelqu'un qui, depuis 20 jours, soit venu vous voir et vous leur donneriez votre bien? Savez-vous qu'on dit que tout ce qui est ici en vaut la peine? Mais oui, dit Ponce. Ramonanque, qui vous connaît pour un amateur et qui brocante, dit qu'il vous ferait bien 30 000 francs de rente viagère pour avoir vos tableaux après vous. En voilà une affaire. À votre place, je la ferais. Mais j'ai cru qu'il se moquait de moi quand il m'a dit cela. Vous devriez avertir M. Schmuck de la valeur de toutes ces choses-là, car c'est un homme qu'on tromperait comme un enfant. Il n'a pas la moindre idée de ce que valent les belles choses que vous avez. Il s'en doute si peu qu'il les donnerait pour un morceau de pain, si, par amour pour vous, il ne les gardait pas pendant toute sa vie, s'il vit après vous, toutefois, car il mourra de votre mort. Mais je suis là, moi. Je la défendrai envers et contre tous. Moi et Cibot. Chère madame Cibot, répondit Ponce, attendri par cet effroyable bavardage, où le sentiment paraissait être naïf, comme il l'est chez les gens du peuple. Que serais-je devenu sans vous, Schmuck? Ah, nous sommes bien vos seuls amis sur cette terre, ça c'est bien vrai. Mais deux bons cœurs valent toutes les familles. Ne me parlez pas de la famille, c'est comme la langue, disait cet ancien acteur. C'est tout ce qu'il y a de meilleur et de pire. Où sont-ils donc, vos parents? En avez-vous des parents? Je ne les ai jamais vus. C'est eux qui m'ont mis sur le grabat, s'écria Ponce avec une profonde amertume. Ah, vous avez des parents? Dit la Cibot en se dressant comme si son fauteuil eût été de fer rougi subitement au feu. Ah bien, ils sont gentils, vos parents. Comment? Voilà 20 jours, oui, ce matin, il y a 20 jours que vous êtes à la mort et ils ne sont pas encore venus savoir de vos nouvelles. C'est un peu fort de café, cela. Mais, à votre place, je laisserai plutôt ma fortune à l'hospice des enfants trouvés que de leur donner un liard. Eh bien, ma chère madame Cibot, je voulais léguer tout ce que je possède à ma petite cousine, la fille de mon cousin Germain, le président Camusot, vous savez, le magistrat qui est venu un matin, il y a bientôt 2 mois. Ah, un petit gros qui vous a envoyé ses domestiques pour demander pardon de la sottise de sa femme, que la femme de chambre m'a fait des questions sur vous, une vieille mijaurée à qui j'avais envie d'épousseter son crispin en velours avec le manche de mon balai. A-t-on jamais vu une femme de chambre porter un crispin en velours? Non, ma parole d'honneur, le monde est renversé. Pourquoi fait-on des révolutions? Dîner 2 fois, si vous en avez le moyen, gueux de riche. Mais je dis que les lois sont inutiles, qu'il n'y a plus rien de sacré, si Louis-Philippe ne maintient pas les rangs. Car enfin, si nous sommes tous égaux, pas vrai, monsieur, une femme de chambre ne doit pas avoir d'un crispin en velours, quand moi, Mme Cibot, avec 30 ans de probité, je n'en ai pas. Voilà-t-il pas quelque chose de beau? On doit voir qui vous êtes. Une femme de chambre est une femme de chambre, comme moi je suis une concierge. Pourquoi donc a-t-on des épaulettes à grains d'épinards dans le militaire? À chacun son grade. Tenez, voulez-vous que je vous dise le fin mot de tout ça? Eh bien, la France est perdue. Et sous l'empereur, pas vrai, monsieur, tout ça marchait autrement. Ainsi j'ai dit à Cibot, « Tiens, vois-tu, mon homme, une maison où il y a des femmes de chambre à crispin en velours, c'est des gens sans entrailles. »
Sans entrailles, c'est cela, répondit Ponce.
Et Ponce raconta ses déboires et ses chagrins à madame Cibot, qui se répandit en invectives contre les parents et témoigna la plus excessive tendresse à chaque phrase de ce triste récit. Enfin, elle pleura. Pour concevoir cette intimité subite entre le vieux monsieur et madame Cibot, il suffit de se figurer la situation d'un célibataire,
grièvement malade pour la première fois de sa vie, étendue sur un lit de douleur, seule au monde, ayant à passer sa journée face à face avec lui-même, et trouvant cette journée d'autant plus longue qu'il est aux prises avec les souffrances indéfinissables de l'hépatite qui noircit la plus belle vie, et que, privé de ses nombreuses occupations, il tombe dans le marasme parisien. Il regrette tout ce qui se voit gratis à Paris. Cette solitude profonde et ténébreuse, cette douleur dont les atteintes embrassent le moral encore plus que le physique, l'inanité de la vie, tout pousse un célibataire, surtout quand il est déjà faible de caractère et que son cœur est sensible, crédule, à s'attacher à l'être qui le soigne, comme un noyé s'attache à une planche. Aussi Ponce écoutait-il les commérages de la Cibot avec ravissement. Schmuck et Madame Cibot, le docteur Poulain, étaient l'humanité tout entière, comme sa chambre était l'univers. Si déjà tous les malades concentrent leur attention dans la sphère qu'embrasse leur regard, et si leur égoïsme s'exerce autour d'eux en se subordonnant aux êtres et aux choses d'une chambre, qu'on juge ce dont est capable un vieux garçon, sans affection et qui n'a jamais connu l'amour. En 20 jours, Ponce en était arrivé par moments à regretter de ne pas avoir épousé Madeleine Vivet. Aussi, depuis 20 jours, Madame Cibot faisait-elle d'immenses progrès dans l'esprit du malade, qui se voyait perdu sans elle. Car pour Schmucke était un second Ponce pour le pauvre malade. L'art prodigieux de la Cibot consistait, à son insu d'ailleurs, à exprimer les propres idées de Ponce. « Ah, voilà le docteur !» dit-elle en entendant des coups de sonnette. Et elle laissa Ponce tout seul, sachant bien que le juif et Rémonenc arrivaient. « Ne faites pas de bruit, messieurs, » dit-elle, « qu'ils ne s'aperçoivent de rien, car il est comme un crin dès qu'il s'agit de son trésor. »«
Une simple promenade suffira, »
répondit le juif, armé de la loupe et d'une lorgnette. Le salon où se trouvait la majeure partie du musée Ponce était un de ces anciens salons comme les concevaient les architectes employés par la noblesse française. De 25 pieds de largeur sur 30 de longueur et de 13 pieds de hauteur. Les tableaux que possédait Ponce, au nombre de 67, tenaient tous sur les 4 parois de ce salon boisé, blanc et or. Mais le blanc jauni, l'or rougi par le temps, offrait des tons harmonieux qui ne nuisaient point à l'effet des toiles. 14 statues s'élevaient sur des colonnes, soit aux angles, soit entre les tableaux, sur des gaines de boules. Des buffets en ébène, tous sculptés et d'une richesse royale, garnissaient à hauteur d'appui le bas des murs. Ces buffets contenaient les curiosités. Au milieu du salon, une ligne de crédence en bois sculpté présentait aux regards les plus grandes raretés du travail humain. Les ivoires, les bronzes, les bois, les émaux, l'orfèvrerie, les porcelaines, etc. Dès que le juif fut dans ce sanctuaire, il alla droit à 4 chefs-d'œuvre qu'il reconnut pour les plus beaux de cette collection, et de maîtres qui manquaient à la sienne. C'était pour lui ce que sont pour les naturalistes ces desiderata qui font entreprendre des voyages du couchant à l'aurore, aux tropiques, dans les déserts, les pampas, les savanes, les forêts vierges. Le premier tableau était de Sébastien del Piombo. Le second, de Fra Bartolomeo della Porta. Le troisième, un paysage d'Obema. Et le dernier, un portrait de femme par Albert Durer. 4 diamants. Sébastien del Piombo se trouve, dans l'art de la peinture, comme un point brillant où 3 écoles se sont donné rendez-vous pour y apporter chacune ses éminentes qualités. Peintre de Venise, il est venu à Rome y prendre le style de Raphaël, sous la direction de Michel-Ange, qui voulut l'opposer à Raphaël en luttant, dans la personne d'un de ses lieutenants, contre ce souverain pontife de l'art. Ainsi,
Ce paresseux génie a fondu la couleur vénitienne, la composition florentine, le style raphaëlesque dans les rares tableaux qu'il a daigné peindre et dont les cartons étaient dessinés, dit-on, par Michel-Ange. Aussi peut-on voir à quelle perfection est arrivé cet homme, armé de cette triple force, quand on étudie au musée de Paris le portrait de Baccio Bandinelli, qui peut être mis en comparaison avec l'homme aux gants de Titien, avec le portrait de Vieillard, où Raphaël a joint sa perfection à celle de Corrège, et avec le Charles VIII de Leonardo da Vinci, sans que cette toile y perde. Ces quatre perles offrent la même eau, le même orient, la même rondeur, le même éclat, la même valeur. L'art humain ne peut aller au-delà. C'est supérieur à la nature qui n'a fait vivre l'original que pendant un moment. De ce grand génie, de cette palette immortelle, mais d'une incurable paresse, Ponce possédait un chevalier de Malte en prière, peint sur ardoise, d'une fraîcheur, d'un fini, d'une profondeur supérieure encore aux qualités du portrait de Baccio Bandinelli. Le fra Bartolomeo, qui représentait une sainte famille, eût été pris pour un tableau de Raphaël par beaucoup de connaisseurs. L'Obéma devait aller à 60 000 francs en vente publique. Quant à l'Albert Durer, ce portrait de femme était pareil au fameux Holzschuher de Nuremberg, duquel les rois de Bavière, de Hollande et de Prusse ont offert 200 000 francs, et vainement, à plusieurs reprises. Est-ce la femme ou la fille du chevalier Holzschuher, l'ami d'Albert Durer? L'hypothèse paraît une certitude, car la femme du musée Ponce est dans une attitude qui suppose un pendant, et les armes peintes sont disposées de la même manière dans l'un et l'autre portrait. Enfin, le Aetatis Suae est en parfaite harmonie avec l'âge indiqué dans le portrait si religieusement gardé par la maison Holzschuher de Nuremberg, et dont la gravure a été récemment achevée. Elie Magus eut des larmes dans les yeux en regardant tour à tour ces quatre chefs-d'œuvre. « Je vous donne 2 000 francs de gratification par chacun de ces tableaux, si vous me les faites avoir pour 40 000 francs. » dit-il à l'oreille de la Cibot, stupéfaite de cette fortune tombée du ciel. L'admiration, ou pour être plus exact, le délire du juif, avait produit un tel désarroi dans son intelligence et dans ses habitudes de cupidité, que le juif s'y abîma, comme on voit. « Et moi ?» dit Raymond Hunk, qui ne se connaissait pas en tableau. « Tout est ici de la même force !» répliqua finement le juif à l'oreille de l'Auvergnat. « Prends 10 tableaux au hasard et aux mêmes conditions. Ta fortune sera faite. » Ces trois voleurs se regardaient encore, chacun en proie à sa volupté, la plus vive de toutes, la satisfaction du succès en fait de fortune, lorsque la voix du malade retentit et vibra comme des coups de cloche. « Qui va là ?» criait Ponce.